Radio Barque 28e, donc nos invités aujourd'hui sont Lilian Serre et André Bory, qui sont des militants, on va dire, environnementalistes, non pas écologistes, peut-être qu'ils reviendront là-dessus pour bien expliquer au public la nuance, parce qu'apparemment, il y a une nuance importante. Alors, Madame Lilian Serre, vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Colère, comme toujours, c'est un sigle. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Alors, précisément, c'est Colère à Narbonne. C'est le collectif pour l'environnement des riverains et lisiques à Narbonne. Les riverains et lisiques sont les anciens habitants de Narbonne. C'est le berceau de Narbonne à l'oppidum de Montlaurès. La ville s'appelait Hélicia et l'oppidum de Montlaurès dominait l'ensemble des oppidums de la région. Donc c'était un site important, pré-romain, avant la période des Romains, donc qui date d'il y a très longtemps. Il y a eu des fouilles archéologiques et la plupart des objets trouvés sont actuellement au musée archéologique de Narbonne. Donc c'est un site très ancien dans lequel il y a beaucoup de vieilles campagnes, de domaines, de châteaux, des campagnes viticoles. Et donc c'est un habitat diffus. Et nous sommes l'association de riverains qui essaye de défendre ce site, son environnement, ses activités de tourisme, de viticulture.
Alors quand vous dites défendre ce site, puisque quand on dit défendre, c'est qu'il y attaque implicitement, ouais. Il faut rappeler pour dire les choses clairement que c'est le quartier qui est autour de l'usine de Malvézy.
Voilà, hein. Alors en fait, nous sommes situés entre le canal de la Robine et l'oppidum de Montlaurès, qui sont deux sites classés monuments historiques. Et au sud, par une SNIEF, le marais de Livière.
Alors, quand on emploie des sigles, oui, compliqués comme
c'est
ça...
C'est une zone naturelle de protection de la faune et de la flore. Donc, c'est un site qui, au départ, est intègre et naturel. Et au nord, évidemment, nous avons l'usine de Malvézy. Donc, c'est pas évident de vivre à côté. Il y a de nombreuses nuisances. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis en collectif, en association de riverains, pour tenter de défendre nos intérêts contre, entre autres, l'usine.
Alors, défendre vos intérêts, donc tous ces riverains, contre cette usine qui, rappelons-le, existe depuis au moins 60 ans aujourd'hui, donc le phénomène n'est pas tout à fait nouveau. Est-ce qu'il y a des choses récentes qui font que ce qui existe aujourd'hui n'existait pas auparavant et ça s'explique ?
Comme je vous l'ai dit, l'oppidum de Montlaurès, il existait,
oui,
ah ben
lui,
avant
ça, lui,
l'usine.
Ça fait des millénaires.
Les domaines qui sont actuellement là existaient aussi avant l'usine. Voilà. D'ailleurs, l'usine s'est installée sur un domaine qui s'appelle Malvézy, qui signifie mauvais voisin, et sur le domaine de Torrent. Donc, c'est des anciens domaines qui ont été rachetés par l'usine, et ces domaines, ainsi que toutes ces campagnes, existaient bien avant l'usine.
Oui, mais je veux dire,
qu'est-ce qui fait
que
actuellement nous on entend un peu parler de nous? On a été créé en 2010 quand même, à l'occasion, quand il a été créé, le CLIC. Le CLIC, c'est la commission locale d'information et de concertation du site. Donc il fallait que les riverains se fédèrent en association pour être représentés au sein de cette commission. Donc à l'époque, il y a eu le PPRT notamment, qui était en voie d'élaboration, donc il fallait participer à son élaboration et donner notre point de vue.
Alors ça, c'est les classements de risques techniques, technologiques.
Plan de prévention de risques technologiques, oui, qui concerne l'usine. C'est un site Céveso seuil haut. Donc chaque fois...
Alors Céveso seuil haut, ça veut dire que c'est un danger chimique, pas nucléaire, hein, précisons les choses.
On est dans le cadre d'une ICPE, Céveso seuil haut. ICPE, c'est installation... classé pour la protection de l'environnement. Donc c'est une usine chimique. Sachant que depuis les bassins B1 et B2, les anciens bassins historiques de l'usine, ont été classés en installation nucléaire à partir de 2009, quand on a appris donc qu'il y avait eu du retraitement d'uranium sur cette usine et qui était des déchets nucléaires dans ces bassins.
Donc, chose qui avait été tue ou cachée auparavant.
Sûrement, puisque c'est 60 ans de déchets qui sont dans ces bassins Et donc, ils ont été classés seulement en 2009. Donc, tous les riverains et les Narbonnais ont découvert ça à ce moment-là.
Oui, en deux mots, rappelons que cette usine, grosso modo, hein, sans être trop technique, reçoit du minerai d'uranium et le traite en tétrafluorure, je crois.
D'uranium.
D'uranium, c'est le premier élément qui entre dans la chaîne, on va dire.
Tout à fait. C'est l'entrée du nucléaire en France, se passe par Narbonne. Effectivement, c'est du yellow cake qui arrive des pays étrangers comme le Niger, le Kazakhstan.
Yellow cake, c'est le minerai. Quoi.
C'est le minerai qui est déjà concentré. Qui est déjà concentré. Et ensuite, il est purifié. Voilà, il est purifié à Narbonne pour en faire de l'UF4, tétrafluorure d'uranium. C'est bien ça. Et ensuite, il part à Pierrelatte, où là, il est purifié.
Alors donc, ces bassins, depuis le début de l'usine, dans les années 50 ou début 60, donc, accumulaient un certain nombre de matériaux qui sont radioactifs, d'une certaine façon.
Pas d'une certaine façon, complètement radioactifs.
Et plus qu'on ne le pensait.
Des déchets nucléaires.
Ou plus qu'on ne le savait.
Oui, puisque de 1959, au début de l'exploitation de l'usine, jusqu'en 83, il y a eu du retraitement d'uranium. Donc, effectivement, des déchets radioactifs du type isotope de plutonium, polonium, radium, technetium.
Alors, c'est là où on passe du simplement un collectif de défense des riverains à une association environnementaliste du type Rubresus, et on va en parler avec André Bory. André Bory, vous étiez venu déjà nous voir ici à ce Radio Bar qui a à peu près une année. Vous étiez à l'époque en pleine action, si je puis dire, puisque vous vous opposiez, alors non pas à l'usine, qui, rappelons-le, existe depuis 60 ans, mais à un nouveau procédé qui est en route, en quelque sorte.
Oui, effectivement, Rubresus est une association environnementaliste qui se préoccupe de sujets d'environnement dans la basse vallée de l'Aude. Et dernièrement, depuis l'enquête publique qui s'est déroulée en septembre 2016 à propos d'un projet de retraitement des déchets liquides d'Areva Malvézy, Rubresus est intervenu pour montrer toutes les incertitudes, les lacunes du dossier d'enquête publique, notamment sous les volets de pollution atmosphérique lié au procédé de traitement qui a été choisi ou proposé lors de cette enquête publique.
Est-ce que Rubresus est né à cause de ça ou existait déjà? Je crois que vous arrivez dans votre 20e année.
Voilà, Rubresus a été créé en 1998 par des Coursanais qui s'opposaient à ce moment-là à un projet d'usine de compostage de boues d'épuration qui devait s'implanter dans les environs de Coursan-Vinassan. Cette association a ensuite développé divers sujets.
Et s'est redéployée à mesure que l'actualité arrivait.
Voilà. Et on voit déjà la pertinence de l'intervention de Rubresus sur ces problématiques d'environnement local. C'est de montrer, dès ce projet initial, les aspects de pollution qui pouvaient être liés à cette unité de compostage. On connaît depuis l'installation Bioterra, qui s'est développée dans les environs de Narbonne, avec une technologie bien plus sophistiquée, et qui émet malgré tout des nuisances olfactives récurrentes, hein, notamment sur...
Du côté de Cap de Plat, pardon.
Voilà. Et on imagine, si cette unité s'était faite à Coursan, et elle devait se faire à ciel ouvert, c'est-à-dire un compostage sur un terrain nu en plein air... On imagine les pollutions atmosphériques qu'il y aurait eu par les nuisances olfactives et les pollutions de l'eau, puisque c'était en zone inondable. Donc il y avait une pertinence de Rubresus dès ce premier sujet qui a conduit à l'abandon de ce projet par le préfet de l'époque.
D'accord. Voilà. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes votre cheval de bataille, en quelque sorte, c'est ce fameux traitement des nitrates. Pas très longtemps d'ailleurs, petite parenthèse, Michel Santo faisait remarquer que jadis, quand on parlait d'associations écologistes ou environnementalistes à Narbonne, il y en avait une, c'était Éclat, et puis que tout d'un coup il y en avait plusieurs, qu'il y avait une sorte de concurrence, une sorte d'émulation. Est-ce que ça vous a amené peut-être à vous spécialiser plus ou moins dans vos types d'actions ?
Alors, on se détermine, du moins à Rubrésus, sur les problématiques qui sont affichées par les riverains ou qui sont sollicitées par les riverains. Donc, on n'obéit pas à une idéologie politique, nationale ou autre, sur les sujets. Ce sont les diversités de sujets qui font les interventions de Rubrésus. J'ai cité cette usine de compostage. On pourrait citer aussi la lutte contre les inondations. Rubrésus a participé à la commission locale de l'eau encore actuellement. Rubrésus est intervenu également sur des problèmes de nuisances sonores, sur l'aménagement de traversée d'un hameau, sur également plus récemment la pollution de l'eau par les pesticides. Vous faisiez allusion dans un de vos premiers sujets à une commune du Narbonnais, pour ne pas la citer, Montredon, des Corbières, qui détient le record de l'Aude de pollution de l'eau potable par l'atrazine. Et on peut s'étonner que les responsables, dont le maire, ne soient pas intervenus depuis 4 ans que ce sujet est connu en permanence, à très haut niveau, pour résoudre la problématique.
Sur ce problème de l'atrazine, les autorités étatiques ne sont pas très claires. Apparemment, on dit que finalement, d'accord, ça dépasse des normes, mais il n'y a pas de danger. Enfin, le quidam moyen s'y perd là-dedans.
Oui, alors, c'est une spécificité des autorités audoises, de l'ARS notamment, l'Agence régionale de santé, qui trouve que boire de l'eau polluée à l'atrazine ne pose pas un problème. Partout en France, dans les autres régions agricoles contaminées par ces mêmes types de produits atrazine, en Picardie, dans toutes les régions de grande culture, les mêmes problèmes sont rencontrés et les solutions ont été mises en place. Le traitement de l'eau par filtre à charbon pour éliminer notamment l'atrazine ou ses dérivés d'atrazine ont été réalisés. Ici, les autorités sont les bras croisés depuis 4 ans qu'ils connaissent le sujet et depuis bien plus d'années puisque ces produits herbicides ont été utilisés de façon intensive depuis les années 60 en agriculture. Dans le Languedoc-Roussillon, comme partout en France. Mmh. Donc on s'étonne que les autorités sanitaires, comme les autorités politiques, les élus, notamment les maires, ne se soient pas mobilisés, sachant l'importance de ces pollutions, pour résoudre ce problème. Et on aurait aimé, plutôt que de parler d'économie européenne, que les maires se préoccupent de santé publique d'abord dans leur commune.
Alors, André Bory, donc, il y a une année, vous étiez en lutte contre un procédé, technologique, on va dire, je ne sais pas s'il est chimique, physique, de traitement des nitrates, qu'on appelle TDN familièrement. Vous étiez en lutte contre, vous vouliez l'empêcher, l'établissement de ce procédé. Apparemment, la préfecture de l'Aude a donné un avis favorable. Votre association est revenue à la charge, en quelque sorte, en déposant un deuxième recours. Alors là encore, il est difficile de s'y retrouver. De son côté, l'usine Malvézy, elle, fait une opération d'information, de visite, etc. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que nous aurons à ce micro la prochaine fois le directeur, Monsieur Jolivet, Stéphane Jolivet, qui lui aura forcément un autre message à tenir. Donc apparemment, on est en plein dans une action qui est effervescente, si je puis dire.
Oui. Alors le sujet, c'est que le préfet a donné son autorisation d'exploitation au procédé TDN au mois de novembre dernier. Et depuis, bien sûr, Rubrésus et l'association Colère sont intervenus pour déposer un recours en annulation de cet arrêté préfectoral. Pourquoi ? Parce que à la lecture de l'arrêté préfectoral, qui fait 80 pages, qui est extrêmement complexe, extrêmement confus, on a pu montrer les contradictions de cet arrêté préfectoral avec les éléments qui ont été présentés à l'enquête publique, d'une part, et aussi des lacunes. Donc les aspects environnementaux ne sont pas suffisamment pris en compte. Par exemple, le préfet dit maintenant dans son arrêté d'autorisation que la radioactivité émise par la cheminée du procédé TDN sera mesurée pendant les 2 premières années pour vérifier si les émissions réactives sont produites. On va vérifier sur le terrain, on va expérimenter sur le terrain un procédé que Rubrésus a indiqué qu'il était déjà expérimental puisqu'il n'a jamais été testé sur ce type de déchets. Voilà un des exemples, et on en a beaucoup d'autres, qui ont justifié un recours juridique auprès du tribunal.
Le fait de ce nouveau contrôle qui est venu d'un seul coup, alors...
C'est suite à nos remarques, puisque tout au long de l'enquête
Mais je veux dire, il n'avait pas été pris en compte, il n'avait pas été prévu initialement.
Voilà, tout à fait. Dans le dossier d'enquête publique, il n'est jamais dit qu'il y aura des émissions radioactives, ni mesurées, ni évaluées. Le préfet est revenu sur ce point par prudence. Maintenant qu'il autorise, il dit « on verra plus tard s'il y a des émissions radioactives ». C'est dangereux de faire ça avec une population de 80 000 habitants dans les environs immédiats. L'autre exemple, ce sont les dioxines. Rubrésus a souligné que la combustion de charbon, qui se ferait dans le four de traitement thermique des nitrates, pourrait émettre des dioxines comme toute la littérature scientifique le montre. Les plus grandes instances scientifiques américaines montrent que la combustion de charbon libère des dioxines dans les produits de combustion. Le préfet, l'enquête publique a dit que les dioxines n'ont pas été détectées lors des essais. Mais le préfet, maintenant, demande aussi a mis des niveaux de quantification de rejet.
Il se ravise par rapport aux premières études.
Voilà, ça montre bien que l'enquête publique n'a pas été réalisée sur des bases objectives d'information du public.
C'est ce qui justifierait votre deuxième recours. Oui, Michel, précision.
Oui. C'est pas un deuxième recours. C'est un premier recours.
Moi, c'est ce que j'ai dit.
Rubrésus et Colère et Rubrésus, qui ont déposé le recours en annulation de l'arrêté préfectoral. Il y a un second recours déposé par Colère et Rubrésus conjointement vis-à-vis du permis de construire.
Oui, mais Rubrésus siège au CODERST, je crois, cette commission départementale qui permet de discuter ces choses-là.
Non, Rubrésus ne siège pas. A été exceptionnellement invité exceptionnellement, par le préfet. Au CODERS qui s'est prononcé sur le procédé TEDN, mais n'y siège pas.
Oui, alors une remarque, Michel.
Oui, parce que pour y siéger, donc, il faut être habilité par le corps préfectoral, effectivement, comme une association, en fait, reconnue, une utilité publique, etc. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, ECLA, mais non pas.
Il ne s'agit pas d'être habilité. Il y a bien d'autres structures non habilitées qui siègent au CODERS.
Non, mais je veux dire, habilité, c'est-à-dire autorisé par le préfet.
Il y a 25 membres au CODERST et il y a beaucoup d'élus, et notamment d'élus du Carcassonnais, pas de Narbonne.
C'est un comité départemental.
Il y a des associations de consommateurs qui ne sont pas plus habilitées que Rubrésus à représenter des riverains.
Non, mais attendez, ne vous choquez pas par le terme. Je dis simplement que l'habilitation préfectorale, c'est-à-dire par arrêté, effectivement, fait...
Le choix, c'est pas l'habilitation,
Dites le choix. On dira le choix pour vous faire plaisir, mais bon, ça ne change rien, effectivement, au fait que c'est le préfet qui décide, effectivement, qu'une association est représentative entre... Je termine sur un point. Peut-être que les remarques que vous faisiez aussi, Monsieur Rubrésus, étaient tout simplement la manifestation, l'expression par le préfet de la prise en compte de vos, effectivement, préoccupations, vos remarques, en fait, ou, comment dirais-je, remarques, de manière à faire preuve, effectivement, de sa bonne foi sur le sujet. Mais je voulais poser une question surtout sur la nature de l'arrêté. C'est un arrêté en annulation. Pourquoi n'avez-vous pas fait un arrêté en référé pour tout simplement, en fait, réagir rapidement?
Un référé suspension, il faut que l'usine soit construite.
Regardez la salle multimodale, elle n'est pas encore construite. L'association qui s'y oppose a bien déposé un arrêt en référé, justement, pour arrêter la procédure.
André Bory.
Oui, juste pour préciser, le recours en annulation a été bien sûr confié à un grand cabinet d'avocats parisiens, rompus à ses méthodes et à ses procédures. Le recours en référé n'est pas exclu. Il sera déposé par l'association Colère et l'association Rubrésus en temps utile. Mais pour le moment, c'était l'urgence, puisque il s'agissait de déposer un recours en annulation avant le 8 mars. C'est ce qui a été fait par les associations. après avoir étudié le dossier, en confiant le dossier au cabinet d'avocats.
Donc dans l'urgence, donc on en est là, et alors donc pour le moment il faut attendre.
Alors sur cet aspect juridique, bien sûr on va attendre les conclusions du tribunal administratif. C'est un dossier très complexe, donc il va prendre du temps. Mais en attendant, on continue à développer l'analyse du sujet qui est relativement importante et qui permet tous les jours de découvrir d'autres aspects. Et donc la gestion des déchets sur le site, justement, pose problème, hein, puisque vous signaliez qu'il y avait une installation nucléaire de base. 400 000 tonnes de déchets contenant des éléments radioactifs sont stockés depuis des dizaines d'années sur le site, à ciel ouvert, sans étanchéité du sol. Donc on peut s'interroger sur la migration des produits chimiques et radioactifs qui sont situés dans ces masses gigantesques de déchets, dans les sols et dans les eaux. Donc voilà aussi des sujets de préoccupation. Un projet de stockage à long terme est d'ores et déjà à l'étude à Malvézy.
Oui, donc
le prochain bure se fera dans l'Aude pour la gestion des déchets radioactifs. Des projets étudiés par l'IRSN, l'Institut de radio protection et de sûreté nucléaire, étudient avec Orano des projets d'enfouissement des déchets qui sont en surface dans des galeries, soit de l'ancienne mine de soufre, soit dans de nouvelles galeries sous Malvézy.
Bon, donc on voit qu'il y a encore énormément de choses qui sont à l'étude, et ça veut dire que bien, on vous retrouvera de temps en temps à ce micro. Merci en tout cas. Un tout dernier mot peut-être, Madame Serre, là-dessus, un dernier scoop.
Non, 60 ans de production,
oui,
l'usine continue à produire sans savoir gérer ses déchets. À l'heure actuelle, une ICPE obtient une autorisation d'exploitation quand elle gère ses déchets.
Ouais.
Ben, pour Areva, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on continue à produire et qu'il y a 60 ans de déchets à la porte de Narbonne. Autre mot, s'il vous plaît, on n'a pas parlé du deuxième recours qui porte sur le permis de construire. Est-ce que nous avons le temps d'en parler ?
Malheureusement, nous arrivons en bout d'émission.
Alors là aussi, il y a de nombreuses irrégularités sur le dossier.
Bon, le recours est déposé. Il faudra t'attendre. Merci en tout cas.
Oui, juste peut-être un petit mot, et je vous remercie, puisque vous avez annoncé la venue du directeur de Rouenot prochainement. On voulait signaler au Narbonnais l'opération Portes ouvertes qui va se dérouler au mois de juin sur ce site-là, et qui, le 12 juin, prévoit d'accueillir des scolaires. La préfecture a adressé à l'académie une invitation à envoyer des élèves sur un site industriel. On est indignés voir cette opération de propagande soutenue par les autorités.
Voilà. Donc, nous prenons acte. Merci André Bory, merci Lilian Serre d'être venu. Alors, je suis sûr que ça n'est qu'un épisode d'un feuilleton, parce que nous vous retrouverons probablement d'ici quelque temps à ce micro de Radio Barque. Merci en tout cas d'être venu avant, justement, la prochaine fois, le directeur, monsieur Stéphane Jolivet, qui lui, forcément, tiendra un discours probablement très différent. Parmi les prochains invités, bien, signalons Jacques Bascou, alors président du Grand Narbonne, un habitué, monsieur Jam, qui lui est le maire de Sigean, et qui viendra nous parler alors d'inondation, comment ça s'appelle déjà, là, le GEMAPI, un sigle absolument magnifique. Après quoi, nous recevrons un catalan, monsieur François Lieta, qui est le président des Républicains à Perpignan, et puis un peu plus tard, madame Bossis, enfin bref, encore un certain nombre d'invités jusqu'à la fin juin. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.